vécu ces discours? D'abord celui de Donald Trump et ensuite celui de Kamala Harris à Washington.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il ne pourrait être différent, plus différent, j'allais dire, parce que lorsque vous écoutez en fait le président Trump et la vice-présidente Kamala Harris, ils présentent deux visions vraiment du pays et leur passé, parce que voilà, on a eu la chance de voir Trump qui avait déjà été président, on a aussi la vice-présidente qui est maintenant toujours en fonction en tant que vice-présidente. Donc ils viennent avec le reliquat de ce passé qu'ils ont déjà eu de leur expérience, et ils présentent deux Amériques clairement différentes, que ce soit sur les aspects de l'économie, de la santé, de reproduction, de l'immigration, et même parfois sur leur positionnement à l'international. Je pense que les deux discours ne pourraient être plus différents.
Comment expliquez-vous que les sondages soient si serrés à quelques jours du scrutin, docteur Renaud?
Alors, je pense que tout le monde est d'accord et tous les experts sont unanimes que l'Amérique est très divisée. Et donc, dans une situation divisée, dans une situation de fracture, ce que nous voyons là à travers les sondages, ce n'est que la réflexe, vraiment le reflet en fait de ce que vit le pays, qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir un électeur moyen, un électeur raisonnable qui se situe en fait au milieu, un électeur centriste. C'est très difficile. Donc, l'Amérique est très fracturée et je pense que c'est difficile pour beaucoup d'acteurs en fait de pouvoir imaginer clairement quelle va être l'issue de cette élection-là. C'est probablement jamais vu dans l'histoire du pays. Je pense que même en 2016, largement, même si après les résultats ont été inversés, largement on donnait quand même Hillary Clinton gagnante. Cette fois-ci, personne ne veut oser ce pari-là parce que c'est très difficile et le pays est très divisé.
Monsieur Kinwani, comment avez-vous vécu ce que je considère comme une démonstration de force des deux candidats, Donald Trump qui a drainé plus de 20 000 personnes à New York et Kamala Harris, de l'avis de son équipe de campagne, plus de 75 000 personnes ici à Washington DC? Comment l'avez-vous vécu?
Oui, je pense c'est le dernier virage, comme vous l'avez dit, de cette campagne. Et dans leur langage, les deux candidats essaient d'être modérés maintenant et ils essaient de se focaliser sur leurs propositions et prendre des distances sur les attaques. On a vu dans le rassemblement de Monsieur Trump, il y a eu des propos injurieux, insultants. Et tout de suite après, la campagne de M. Trump a essayé de dénoncer et de se détacher donc de ces propos-là. Et c'est la même chose aussi avec la vice-présidente Kamala Harris, où on voit moins en moins d'attaques et l'accent est maintenant mis sur les propositions. Donc là, je pense qu'ils comprennent que les électeurs ont maintenant besoin donc de comprendre leurs propositions, parce que comme venait de le dire, les votes est très serré et les sondages aussi restent très serrés, et donc c'est important pour les candidats de faire en sorte que leur message puisse être compris par les électeurs qui vont se décider en moins d'une semaine.
Vous êtes coordinateur de l'immigration, notamment pour la communauté congolaise, qui est beaucoup citée par le républicain Donald Trump lors de ses meetings. À mesure que cette campagne évolue, on l'a vu, le thème de l'immigration revêt un intérêt de plus en plus croissant. Comment les messages des candidats sont perçus dans votre pratique professionnelle? Est-ce que cela affecte vos potentiels clients, notamment la diaspora africaine?
Oui, évidemment, le Congo a été cité à plusieurs reprises par Monsieur Trump comme étant un pays qui envoie les prisonniers ou des gens qui viennent des institutions mentales ou psychologiques aux États-Unis. Et ce sont des allégations que d'abord le gouvernement congolais a dénoncé et a dédié, et c'est la même chose que nous faisons au niveau de la communauté. Nous essayons donc de repousser ces genres de rhétorique qui ne fait que enflammer cette campagne ou semer la division entre différentes communautés. Et donc ces propos pour nous ne sont basés sur aucune preuve, aucune évidence. France. Alors, l'immigration continue à inquiéter les membres de notre communauté parce que ce soit au niveau des républicains ou au niveau des démocrates, il n'y a pas de solution tangible. Sur l'immigration, on a vu Monsieur Trump qui avait déjà promis de déporter une grande partie d'immigrants aux États-Unis et la vice-présidente est revenue aussi sur cette politique de déportation, mais sans proposer des solutions pour les gens qui sont ici et qui travaillent, qui contribuent à l'économie américaine, qui ont des enfants américains, qui ont la famille ici. On devra trouver une solution pour ces gens-là. Et la déportation, c'est que ils ne disent pas, c'est que c'est une politique qui va coûter beaucoup d'argent au gouvernement américain. Les récentes études montrent que cette politique de déportation coûtera plus de 80 milliards au trésor américain. Et avec cette économie qu'ils essaient de relever, je ne sais pas s'ils auront ou s'ils trouveront le moyen pour poursuivre cette politique de déportation. Jusque-là, en tout cas, on a des inquiétudes parce que on n'a pas, les candidats, en tout cas, ne nous disent pas clairement leur solution sur ces problèmes d'immigration.
J'aimerais poursuivre avec l'économie, avec vous, docteur Wenu. On a vu dans l'actualité ce matin que l'inflation aux États-Unis est tombée en septembre à son plus bas niveau depuis février 2021, selon l'indice PCE privilégié par la Fed et publié ce jeudi, à 5 jours de la présidentielle. Près de la moitié des Américains, 41%, ont déclaré en effet que l'inflation est leur principale préoccupation. Alors, on se demande si cette information peut jouer sur le choix des électeurs à quelques jours de la présidentielle.
Alors, je vais juste convoquer en fait la tendance qu'on a vue, parce que la tendance a commencé par être baissière depuis quelques mois en fait, et on n'a pas vu vraiment un changement fondamental sur le comportement de l'électeur américain sur la base de cette nouvelle information. Donc je ne suis pas très optimiste, je ne pense pas que ça va changer vraiment la trajectoire et le choix en fait des électeurs, parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas vraiment l'inflation telle qu'elle est annoncée par les instances officielles comme la Fed, c'est vraiment le ressenti. Et donc le ressenti, est-ce qu'il détermine vraiment les gens à pouvoir mesurer par eux-mêmes si vraiment l'inflation a baissé, et si lorsqu'ils vont par exemple à la pompe pour mettre de l'essence, ou ils vont dans une épicerie pour acheter, quel est vraiment le changement qu'ils sentent. Et je voudrais dire clairement, lorsque vous allez dans une épicerie, il y a un temps, ce qu'on appelle le temps, en fait, pour changer même les informations sur le prix. Donc, les informations qui sont affichées sur l'étalage prennent du temps pour être réajustées, même lorsque l'inflation ou les données de l'inflation changent. Et donc, puisque ces changements ne vont pas être vraiment systématiques, ça va être difficile que cela se reflète vraiment au niveau des prix pour l'électeur moyen. Et donc, je ne pense pas que ça pourra affecter la dynamique vraiment du vote lorsqu'il va se présenter devant lui.
J'aimerais savoir ce que vous pensez des messages des candidats justement sur la question économique. Donald Trump a encore promis samedi lors de son meeting de rendre le coût de la vie de nouveau abordable en Amérique, avec notamment des baisses d'impôts. Kamala Harris de son côté a assuré mercredi avoir un plan très précis, très détaillé pour renforcer l'économie. Et des médias économiques ont examiné son plan, le plan de Kamala Harris, et ont dit qu'il renforcerait l'économie et que le plan de Donald Trump affaiblirait plutôt l'économie des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense qu'il y a des opinions très 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 divergentes sur cette question. Donc oui, des éminents économistes ont regardé les deux plans, et je pense qu'il y a des versions qui disent que c'est difficile en fait de les départager, parce que au moment où Trump effectivement propose en fait d'ajouter des tarifs et donc de répondre du tac au tac, comme il a dit, œil pour à tout pays qui met des taxes sur les produits américains, qu'il fera de même en ayant certainement dans le viseur la Chine, il sait clairement qu'en le faisant, ça va être l'acheteur américain, à la fin de la journée, le consommateur américain qui va être affecté. Donc, de la même façon, lorsque Kamala propose, par exemple, de mettre de nouvelles taxes, clairement, donc l'effet des tarifs, c'est une taxe, de nouvelles taxes, c'est aussi une taxe. Et donc, lorsqu'on compare les deux propositions en termes d'impact économique, c'est difficile à trancher. Moi, ce que je veux dire...
Mais il y a quelques semaines, j'aimerais juste préciser qu'il y a quelques semaines, les sondages montraient que les électeurs font plus confiance à Donald Trump pour gérer notamment la question de l'économie.
Oui, les deux choses que Donald Trump a fait vance techniquement dans cette élection, c'est ce qu'on va appeler son bilan économique au moment où il était président. Et donc, il le demande clairement aux gens. Vous sentez-vous mieux maintenant que vous l'étiez sous ma présidence? Et donc, à cette question, les gens, ils sont techniquement en train de voir comment ils se sentaient parlant de l'économie au temps de Donald Trump en comparaison avec la vice-présidente Kamala Harris. Et donc la deuxième chose qu'il pensait, c'est l'immigration. Donc je pense que il donne le sentiment d'être quelqu'un qui est un faiseur, quelqu'un qui produit plus de résultats. Et Kamala Harris, qu'on le veuille ou pas, en fait sur le président Biden, l'économie s'est très très bien portée, en tout cas au vu des statistiques et des données. Mais en fait le ressenti de cette économie là est le véritable problème et c'est le véritable déterminant en fait de la position des électeurs trumpistes.
Monsieur Kinoani, un commentaire avant de poursuivre.
Ouais, mais je pense aussi si on doit faire un pont entre l'économie et l'immigration, il faudrait noter que l'apport des immigrants dans l'économie américaine est considérable, importante. Il y a une étude de American University qui venait d'être publiée la semaine passée, qui montre que les immigrants contribuent au moins 2 trillion à l'économie américaine. Et donc, et comme je disais, c'est que cette politique de déportation pourra aussi affecter l'économie américaine.
Pour revenir justement sur la question de l'immigration, on a vu la polémique autour du meeting de Donald Trump à New York, où l'un des invités a fait des commentaires qu'on peut considérer comme désobligeants sur la communauté portoricaine, les messages des candidats. J'avais demandé plutôt si ces messages affectaient vos clients ou la diaspora africaine, mais surtout comment éviter les dérapages des deux côtés sur cette question de l'immigration. Parce que ce n'était pas la première fois que des propos, les discours des candidats affectaient une communauté étrangère ici.
Oui, mais comme je l'avais dit, la campagne de M. Trump se détache évidemment de ses propos. Ils comprennent que à ces niveaux, il faudrait éviter les dérapages, les débordements de langage. Et donc, c'est la même chose que nous sentons aussi au niveau de la campagne de Kamala Harris, où ils essaient aussi d'être modérés dans leur langage. Mais il faudrait noter ici, madame, c'est que le langage ou l'attitude de M. Trump continue à inquiéter les immigrants parce que cette politique de déportation ou d'essayer de limiter le problème de l'immigration à la situation qui se passe ou au problème qui se passe à la frontière, donc au niveau de la frontière Mexique et États-Unis, ça ce n'est pas le seul problème de l'immigration. C'est qu'on n'a pas vu ça pendant la campagne. Les candidats parler d'autres problèmes de l'immigration qui sont aussi importants. Aujourd'hui, par exemple, il faudrait noter qu'il y a plus de 2 millions de cas d'asile qui restent sans réponse. Et ce sont des questions que les candidats n'ont pas abordées, mais qui sont des questions importantes. Et cette façon donc de limiter les problèmes de l'immigration qu'à la situation donc de la frontière risque de porter préjudice à long terme parce qu'il n'y a pas une vision claire sur les réformes de l'immigration. Et on doit aussi rappeler ici que, madame, le code de l'immigration est parmi les plus vieux codes de loi ici aux États-Unis. Ça fait plus de 30 ans que le code d'immigration n'a pas été revu. Et donc,
vous appelez donc à des réformes?
Voilà, à des réformes, parce qu'il est temps maintenant de sortir un peu, d'aller au-delà de la situation de la frontière, ce qui se passe au niveau donc des entrées légales ou illégales au niveau de la frontière, mais essayer de voir de façon inclusive, de façon compréhensive, les réformes apportées à ce système d'immigration qui ne cadre plus avec les réalités actuelles.
Docteur Renaud, un commentaire sur le dérapage des deux côtés, sur le thème de l'immigration justement lors des meetings.
Oui, c'est clairement déplorable. C'est déplorable qu'on puisse en fait assister à de l'ostracisme contre un groupe particulier parce qu'ils sont immigrants. C'est toujours important de rappeler que Globalement, en fait, il n'y a que 3% en fait des humains qui bougent, qui vraiment vont dans d'autres pays d'accueil. Donc 97% des humains globalement restent là où ils sont nés et ils meurent là. Donc l'immigration, globalement, c'est vrai, ça a un appétit politique, mais ce n'est pas vraiment un problème pour l'économie, c'est souvent une solution. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que le monde se referme. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en dehors, en fait, de la logique trumpiste, le monde se referme et l'immigration deviendra de plus en plus difficile lorsqu'on va dans des politiques de protection, que ce soit en Europe qu'aux États-Unis. Donc, je n'envisage pas, même sous une présidence Harris, en fait, que la question de l'immigration soit abordée avec beaucoup plus d'appétit, avec beaucoup plus de pragmatisme pour trouver des solutions. Elle a évoqué un certain nombre de choses, notamment les naturalisations, mais voilà, ça, c'est la ritournelle qu'on a toujours entendue depuis très longtemps et on n'a jamais vu de solution. Donc, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça, parce que c'est une tendance mondiale globalement.
Et que pensent nos téléspectateurs des derniers discours de cette campagne présidentielle? Nous avons posé la question sur la page Facebook de VOA Afrique. La réaction de Yao Marcelin Kofi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il nous dit que c'est tout de même une élection qui est loin d'être jouée d'avance. Nous espérons que le scénario du Capitole de 2021 ne se reproduira pas. C'est le commentaire de Yao Marcelin Kofi à Abidjan. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, lui, nous dit que la course entre les candidats aux élections présidentielles aux États-Unis est vraiment serrée et la suite nous dira est-ce que les Américains sont prêts pour élire pour la première fois une femme à la tête de leur nation ou l'imperturbable Trump fera son comeback. Merci à vous pour vos différentes réactions. On se retrouve après une courte pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités au Washington Forum sur VOA Afrique. Restez avec nous.
Dans des foules B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full B.
Dans des foules B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Des foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day.
Alexandre Grimprolon, on est avec vous dans Washington Forum sur les derniers meetings de la campagne présidentielle ici aux États-Unis. Et pour ce débat, je suis avec Dr Boris Ouenou, expert en économie, politique, investissement et technologie, qui nous rejoint de Montréal au Canada. Nous avons ici dans le Maryland Nils Kinwani, qui est responsable de la politique fédérale pour African Communities Together. Il est également coordinateur de l'immigration pour la communauté congolaise de Washington. Eh bien, monsieur, cette campagne électorale est très suivie hors des frontières des États-Unis. Docteur Ouenou, est-ce que vous pensez que les discours et les promesses actuelles influencent la perception de la stabilité des États-Unis sur la scène internationale? Plusieurs personnes ont encore vu dans les commentaires les spectateurs qui disent qu'ils n'aimeraient plus revoir le scénario de 2021, le 6 janvier 2021, qui s'est produit ici aux États-Unis.
Oui, les États-Unis, c'est toujours la première puissance du monde. Donc, tout ce qui se passe aux États-Unis a une résonance mondiale. Donc, vous allez suivre un peu ce qui se passe dans la commune, par exemple, dans l'Europe, et constater que la plupart des pays sont en train déjà de penser à des plans de contingence au cas où Trump revenait, ce qu'il n'avait pas pu faire, par exemple, en 2016, parce qu'il était venu comme une grande surprise pour tout le monde. Donc, la plupart des pays se préparent à une éventualité Trump. Il y a des scénarios qui sont planifiés au cas où Trump venait au pouvoir. Vous avez vu la semaine dernière, je pense, il y a la réunion des BRICS, donc qui se sont réunis et qui aussi sont à l'expectative par rapport à comment est-ce qu'ils réagiront lorsqu'il y aurait une nouvelle présidence Trump. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde globalement s'organise est en train d'embrasser l'idée que Donald Trump pourrait revenir pour un combat pour un second mandat. Parce qu'ils se sont habitués quand même, sur les 4 dernières années, à une sorte de normalisation en fait de ce que les relations diplomatiques devaient être dans le monde, même si de par-ci par-là, il y a eu quand même quelques échauffourées et des violences, notamment les guerres en Ukraine et au Gaza. Mais les gens sont très très appréhensifs par rapport à l'idée d'un retour Trump. Mais ça, c'est quelque chose de très négligeable par rapport au positionnement de l'électeur américain, parce que l'électeur américain, en fait, d'abord pense comment est-ce que lui se sent, quelle est la réalité de l'économie, comment est-ce qu'ils sentent ou perçoivent la question de l'immigration. On a aussi la question de la santé de reproduction qui est très importante, notamment pour les femmes. Donc je pense que ce sont ces éléments clés qui vont déterminer leur choix et non pas vraiment la politique étrangère des États-Unis qui, oui, a des conséquences, mais ne pèse pas de l'eau en tant que tel dans l'élection.
Un commentaire sur ce sujet, M. Kinoani, la stabilité des États-Unis perçue à l'étranger.
Oui, et je pense que c'est quand même un sujet qui est revenu aussi pendant la campagne, et Monsieur Trump profite un peu de cette situation instable au Moyen-Orient et en Ukraine pour relever les faiblesses donc de cette administration. L'administration de Biden et aussi qui implique Kamala Harris, et aussi c'est que cette administration, la campagne de M. Trump a essayé de faire, c'est de clarifier l'implication de Kamala Harris dans les incidents malheureux qui s'est passé en Afghanistan au moment du retrait des forces américaines et donc voilà, ce sont en tout cas des événements qui ont choqué, il faudrait le dire, les Américains, et ce sont des événements qui ont essayé un peu de projeter un peu une image de faiblesse des États-Unis. Et donc, M. Trump profite de ça pour donner une alternative de force, dire que voilà, que s'il est élu, va mettre en place une politique qui va affirmer la position de force des États-Unis au niveau mondial. Mais ce qui inquiète aussi avec M. Trump, c'est que il veut retirer les États-Unis de certaines obligations internationales. On a vu son attitude par rapport à l'OTAN qui n'est pas appréciée, il faudrait le dire, par plusieurs partenaires européens des États-Unis. Et donc, cela aussi inquiète d'autres pays, surtout les pays de l'Europe, parce que les États-Unis sont parmi les pays qui contribuent énormément à l'OTAN. Et donc, voilà. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des inquiétudes au niveau de la politique étrangère donc pendant cette campagne.
Alors, VOA Afrique a initié cette semaine des messages de toute personne, de toutes les couches sociales à l'endroit du futur président des États-Unis. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, jouer à ce petit jeu. Si vous avez un message à l'endroit du futur président des États-Unis, docteur Ueno.
Première chose, c'est que lorsque l'Amérique vote, c'est très important pour le monde. Certes, ils sont en train de s'adresser aux Américains, hein, mais tout en le faisant, d'avoir une certaine idée en fait de ce que le reste du monde pourrait ressentir à travers leur politique qu'ils mettent en place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais parler de l'Afrique. Il y a certains acteurs autour de Trump qui disent que sa logique serait par exemple de donner un peu plus d'appropriation de capacité locale en fait aux Africains et non pas de s'ingérer en fait dans leurs affaires. Je veux bien croire que c'est une option sérieuse qu'ils vont essayer d'implémenter, mais tout en le faisant, de faire la distinction clairement entre les pays africains qui ont déjà une stabilité démocratique, qui peuvent donc essayer en fait d'implémenter les choses, et les pays qui sont faillis, et il y en a pas mal sur le continent.
Je vais plutôt donner la parole à M. Kinoani pour son message assez rapidement.
Ouais, donc mon message est simple au futur président des États-Unis d'unifier ces pays. On a besoin de l'unité et l'unité, c'est la force des États-Unis.
Je vous remercie, monsieur, pour votre réaction, vos partages pour ce débat Washington Forum en direct de VOA Afrique Washington. Merci à vous pour vos commentaires également et merci à vous qui nous suivez à travers nos télépartenaires. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h en temps universel. Très bonne soirée en compagnie des programmes de VOA Afrique.